Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour et bienvenue dans Libre Débat. Cette semaine, on va s'écouter la suite et la fin de la série « Mon pays, c'est la communauté des adoptés », un podcast réalisé par Avaka et Laïla Porchet. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'épisode 3 « Faire famille » et l'épisode 4 « Identité et communauté. Bonne écoute.
On est toute sa vie quelqu'un qui a été adopté. Ça fait partie de notre vie, toute notre vie. Longtemps, quand je dis que j'ai été adoptée, c'est je suis une enfant adoptée. Or, je ne suis plus une enfant, effectivement.
Être adoptée pour moi, ça signifiait être différente des autres, que ce soit ma famille ou de l'univers dans lequel j'évoluais. Et surtout, ça signifiait ne pas être entendue.
L'endroit où moi je sais que je suis bien, mon pays, c'est la communauté des adoptés.
Mon pays, c'est la communauté des adoptés. Un documentaire en 4 épisodes réalisé par Leïla et Ravaka. Conversation, échange, analyse et témoignages de 8 personnes adoptées.
Quand tu parles de filiation, je trouve ça intéressant et tu parlais aussi hier de ce qui fait famille. J'ai pas en tête tous les termes qui font famille, mais il y en a plein. Il y a le sang, mais évidemment pas que, on est la preuve vivante. Il y a le nom, il y a la loi aussi, la filiation. Enfin bref, je pense que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là, de pourquoi ce désir de maternité ou de parentalité, il revient aussi fort chez les personnes adoptées.
Épisode 3, faire famille.
Ce que je dis souvent, c'est quand tu es adopté, tu as de la gratitude envers tes parents, justement, parce qu'en fait, ce ne sont pas tes parents. Et ça fausse énormément de choses. C'est l'enfant abandonné, la chance, des chouettes parents. C'est hyper lourd, je trouve, à porter. Ça met une espèce de gratitude supplémentaire par rapport aux parents. Et moi, j'ai été adoptée en partie pour l'humanitaire, et dit comme ça, non, mais on voulait sauver un enfant du bout du monde. Mm-hmm. Voilà, je dis comme ça, mais c'est vraiment sick. Donc, voilà, se construit ça, la réaction des gens, ah, mais t'as de la chance. J'en suis comme des rangs de chapeau, mais bon, ok, j'ai de la chance.
Il y a quand même une injonction, il y a une pression.
C'est cette pression d'être le bon enfant à tout point de vue. T'as de la chance, on peut payer des études, t'as ça, il faut être ci, il faut être comme ça, c'est qui est hyper lourd à porter parce que c'est une énorme pression. Pour moi, ça dépasse, si j'ai plus entendu les amis dire, c'est les attentes. Mais la notion du bon enfant, c'est-à-dire d'être l'enfant, entre guillemets, parfait, parce qu'adopté, c'est-à-dire qui est aimant, avec qui ça va être facile, qui va donner et rendre tout l'amour qu'on lui donne. Ce truc de l'adoption idyllique sur lequel se cassent les dents, d'ailleurs, nombre de parents dans toute leur naïveté.
Par contre, je ne me suis pas sentie redevable pareil. Ça, c'est quelque chose que je pense que mes parents ont bien fait. Parce que ça, j'ai entendu d'autres personnes adoptées, que t'as de la chance, tu dois pas te comporter de cette manière. Ouais. Les réflexions qui incitent à devoir se sentir loyal. Moi, j'ai pas eu ce ressenti-là. J'ai vraiment eu un sentiment d'équité, en fait, avec mes frères et sœurs. Je pense que s'il y avait eu un micro-doute là-dessus, ça aurait été hyper compliqué, quoi.
Je n'ai jamais ressenti quelconque sentiment de redevabilité envers mes parents adoptifs. En tout cas, pas de sentiment de redevabilité qui soit lié au fait qu'il m'ait adoptée. Beaucoup plus lié au fait qu'ils aient subvenu très, très, très largement à soutenir mes études, mais pas du tout du fait d'avoir été adoptée. C'est-à-dire que ils ne m'ont pas fait une fleur, quoi. Je suis autant un cadeau que pour eux que pour moi, ça a été un cadeau. Enfin, moi, j'ai rien demandé, en fait. C'est eux qui voulaient des enfants, en fait, et ils sont venus me chercher.
Et j'y pense quand tu parles, du fait d'être avec tes parents et de cette pression du regard de l'autre que tu sens. Parce qu'il n'y a rien qui dit, t'as envie d'avoir un panneau et de dire, c'est mon père. Et d'ailleurs, je ne sais pas si toi tu le faisais, mais il y a quand même ce truc où souvent, je faisais en sorte de régulièrement dans la rue ou dans un magasin, dire maman, papa, pour qu'il y ait ce raccord qui se fasse.
Et en vieillissant, c'est presque l'inverse qui se fait d'ailleurs. Ah bah moi j'avais remarqué ça petite, ouais tu sens qu'il faut un peu dire oui c'est mes parents, c'est oui. Voilà, oui. Et quand tu vieillis, et notamment quand tu deviens adulte, moi mon père il me disait toujours dans les restos, ma fille, que ma soeur il faisait pas ça.
Toi, ça m'a jamais, mais là, tu vois, ça me fait penser à papa.
Non, mais dans la rue, hein, moi, je sais qu'à partir d'une quinzaine d'années, j'avais
même quand
vachement de mal.
Ouais,
c'était dur d'être toute seule avec mon père, parce que tu sens le regard des gens, mais c'est sa petite prostituée asiatique qui est cherchée au pays.
Ouais, mon père en a déjà pris pour mon mari aussi.
Non, mais oui, mais grave.
Quand j'étais allée chercher un arbre, on m'a dit oui, vous allez le porter, votre mari va vous aider à porter l'arbre. Mais c'est mon père. Mais bon, quand même.
Oui, ça crée une confusion un peu gênante. Enfin, il y a un truc qui est magique.
Mais ouais, ça, c'est... Après, petite, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que papa, il est beaucoup ma fille. Même quand il m'écrit. Je t'aime, ma fille.
Même mon père, c'est pareil. Quand il m'écrit, c'est ma fille. Et bon, et je sais qu'il le fait plus par rapport à moi que par rapport à ma sœur.
Moi, je sais que s'il m'envoie un message... un message pour, par exemple, pour dire je t'aime. Il va pas me dire je t'aime, par exemple, je t'aime Anna. Mais c'est vraiment je t'aime, ma fille. Quand on se disputait avant, il disait toujours oui, mais tu es ma fille.
Mon père, c'était, mais de toute façon, mon père, il n'a pas eu du tout les mêmes rapports que ma mère. C'était pour lui, de toute façon, on est ses filles, et voilà, c'est un truc inaliénable, mais il fallait tout le temps qu'il le dise. Bah oui, mais enfin, moi, on était filles, mais bon, de toi à moi, on est deux dans la pièce, là, je vois pas, on le sait, je crois, tous les deux, que je suis ta fille. Et en fait, c'était comme s'il avait peur qu'on lui enlève ça.
C'est important, parce que du coup, il faut qu'il puisse comprendre, du coup, ce truc que disent beaucoup d'adoptés, c'est que l'amour, ça va pas réparer. Là, l'amour, il va pas, pour certains, il va pas suffire. C'est pas parce que vous allez aimer l'enfant que, du coup, tout va bien se passer. Je pense que c'est... L'erreur de pas mal de parents, c'est de se dire qu'ils vont sortir un enfant d'un pays pauvre, ils vont le ramener en France, ils vont l'aimer, il va aller à l'école, il va être heureux et il va vivre sa vie.
Et je pense qu'il faudrait refonder en fait la notion même de parentalité. J'en ai discuté par exemple avec Joey Bourgoin sur cette question-là, c'est que ce qui s'oppose, ce qui nourrit ce système-là, c'est notre vision très patriarcale de la famille. Parce que pour les adoptants, on est leurs enfants, ils ne voient pas la couleur. On essaye de faire vivre l'adoption comme une famille normale. On dit que c'est la normalité. Pour eux, à partir du moment où on a nos papiers, ils ont leurs enfants et ils ne voient pas la couleur, ils ne voient pas l'histoire. Ils se disent qu'il n'y a pas eu d'histoire avant parce qu'ils nous ont eu bébés, donc il n'y a rien avant. Enfin, dans mon cas, du moins. J'espère que maintenant, les adoptants qui arrivent, ils sont plus préparé que ça. Le souci dans tout ça, c'est que justement, on n'est pas écouté dans le vécu du racisme et que même les paroles racistes intrafamiliales, je trouve que c'est quand même compliqué. Moi, j'entends quand mes adoptants cracher sur les étrangers. Je suis pas née en France. Je serai jamais. J'ai peut-être des papiers français, mais je serai toujours l'étrangère pour beaucoup de gens parce que je suis clairement racisée, je suis une femme asiatique. Je reviens aussi sur la difficulté d'être racisée dans un milieu blanc, surtout dans le milieu scolaire quand il y a des enfants qui sont adoptés dans des... Enfin, comme moi, j'étais dans un petit village à la campagne. Heureusement que j'avais mon frère adoptif qui est aussi né au Vietnam, donc qui me ressemblait. Mais sinon, c'est très compliqué parce qu'ils ont encore plus tendance à minimiser le racisme parce qu'on est dans des milieux tout blancs. où ils disent que le racisme, c'est un mythe qu'on voit dans le journal télé. En ville, c'est quelque chose qui va être un peu plus connu parce qu'il va y avoir plus de brassage de population. Donc, on va avoir plus une conscience de ça. Les enfants qui naissent de personnes issues de l'immigration, ils peuvent être préparés par leurs parents à ce racisme. Nous, on arrive, on est projetés dedans. Et en plus, on va nous dire « Oh, mais c'est peut-être que t'es trop sensible ».
Une adoption, de toute façon, quand les parents ont un agrément, c'est parce qu'ils ont un certain niveau de vie matériel. Faut pas se leurrer, c'est pas deux smicards qui pourront adopter, hein, tout simplement. Hein. C'est, on le voit bien dans toutes nos familles adoptives, c'est on est de la bonne classe moyenne, sans forcément péter très très haut non plus au niveau des fortunes, mais il y a quand même une certaine aisance familiale, financière. Et ça, moi, c'est un truc que je trouve intéressant. Et une fois, je disais à un ex, parce que moi, je ne m'étais jamais vraiment rendu compte qu'effectivement, j'aurais un héritage. J'en discutais avec un mec qui s'est, il disait, de toute façon, comment, mais t'as pas honte de dire ça, Linda? Tu parles pas à tes parents et tu vas récupérer ton héritage? Et, mais grave. Ouais. Et puis, pas de façon vénale, mais nom de Dieu, ouais, c'est les 15 ans de crise d'angoisse. C'est 15 ans de migraine, ça creve être pas dans ma chambre toute seule comme rien du tout. Et ouais, et ça a un prix. Mes parents, ils ont toujours mis à su. Des parents, moi, ce qui me manque le plus dans ma vie aujourd'hui, à 46 ans, encore, toujours, quand je vois ma sœur avec sa fille, par exemple, les câlins qu'elle peut faire à ses enfants, moi, ce qui me manquera toute ma vie, c'est un vrai câlin de maman. Mais le truc inconditionnel, pas juste de l'amour qui est dit, mais qui est fait, et ça, j'ai jamais eu. Jamais, jamais. Et pour tous les adoptés, quand tu n'as pas tes parents adoptifs, c'est que tu n'as pas eu non plus de tes parents biologiques. Je ne dis pas le vide que ça crée. C'est passé par du matériel. Ça passera par du matériel jusqu'au bout.
Moi, j'ai fait une petite reconversion professionnelle. À la base, j'ai fait du droit parce que j'avais besoin de me sentir un peu ancrée en France. Et je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas. Donc, par la suite, j'ai divergé vers l'informatique. Je m'amuse bien dans ce domaine-là, mais surtout, ça va me permettre de pouvoir retourner plusieurs mois au Vietnam, je pense, quand j'aurai vraiment refini toutes mes études. Parce que, je pense qu'on a des choses à régler là-bas. J'aimerais faire des recherches au niveau de ma famille biologique, sachant que mon dossier est plus que trouble, donc ça va demander plus de temps que ce qu'on pourrait penser. C'est une lourde quête, hein. En plus, c'est une quête qui est un peu sans fin, parce que même si on les trouve... il y a créer des liens avec des gens dont on a été séparés toute notre vie, c'est pas rien. Il y a aussi la question de avoir ou pas avoir des enfants. Avoir des enfants, ça se met aussi devant nos peurs. Est-ce qu'on sera un bon parent, sachant que on n'a pas forcément eu. Moi, j'ai pas eu de bon modèle. Plus en plus, avec l'abandon, on se demande si vraiment est-ce qu'on est fait pour ça, quoi.
Enfin, je trouve ça hyper triste qu'on en soit arrivé à prendre comme ça des chemins dans nos têtes pour garder ce statu quo tellement on a peur.
Se tordre.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? J'ai l'impression qu'à un moment donné, dans la famille, il y a eu un truc qui s'est apaisé ou...
Je suis partie de... Je suis pas partie. On m'a poussée dehors. Ça avait été déjà compliqué. Donc après, ça, avec maman, c'est vrai que ça a toujours été très compliqué.
Pourquoi ?
Parce que j'avais pas envie de l'aimer. J'avais pas envie de donner l'amour que j'aurais dû donner à ma mère biologique, lui donner à elle. C'était très compliqué, donc c'est au moment où j'étais en internat. Elle m'a dit qu'elle voulait pas me garder, enfin qu'elle voulait pas que je reste à la maison. Et avec mon père, je m'entendais pas avec ma belle-mère. Et il m'avait dit, soit tu pars à Madagascar, soit tu fais l'armée. Et en fait, je voulais offrir aucun des deux. Je me rappelle juste que mes grands-parents, en fait, ont essayé un peu de m'aider parce qu'ils m'ont fait venir chez eux. Et en fait, après, je suis partie de chez mes grands-parents et j'ai arrêté de parler à mes parents pendant un moment. Je venais d'avoir 18 ans. Et du coup, après, là, il y a un moment où je n'ai pas parlé à mes parents et où je me suis débrouillée toute seule. Et donc, en fait, je me suis retrouvée toute seule, tranquille, avec à faire ce que je voulais.
Je vivais
ma vie.
On dit qu'il y a une légèreté, alors que c'est...
Ça se voit pas, mais un super grand sourire.
Non, mais parce que en vrai, c'est ça qui... C'est vraiment cette coupure-là qui a commencé, à faire les choses. Après, du coup, il y a eu cette coupure, il y a eu la rencontre avec mon copain actuel qui, je pense, m'a un peu aidée aussi. J'avais jamais trop assumé être adoptée. C'est pas un truc que je racontais trop. En tout cas, à mes copains, Mais des fois, même, je leur disais même, je suis antillaise. Comme ça. Je ne vais pas chercher point, 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 point. Du coup, lui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, c'est la première personne à qui vraiment j'ai assumé. Je lui dis, je suis malgache, j'ai été adoptée à tel âge, mon frère, ma soeur sont les parents biologiques. C'est vraiment lui à qui j'ai vraiment raconté mon histoire. On m'appelle Anna chez moi. En fait, c'est Anna Ravaka. Quand je suis arrivée en France, c'était Ravaka, mais du coup, les gens avaient un peu de mal. Donc, il y avait Anna qui était venue devant. Malgache, ouais. Anna est venue devant. Donc, pendant un moment, on m'a appelée Anna Ravaka. Et en fait, après, tout le monde est passé en Anna. Ouais. Et du coup, mon copain, c'est la première personne à m'avoir appelée vraiment Ravaka. Il y a tout qui s'est fait, du coup, quand je suis partie de la maison. Avec lui, avec du coup le fait de devenir maman, sachant que j'ai eu... ça a été compliqué. J'ai eu un peu peur, sachant que c'est une peur qui... Ça, en fait, c'est même pas possible. Mais quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, est-ce que du coup, je vais pas faire les mêmes erreurs que ma mère biologique ? Donc, elle n'a pas fait d'erreur, en vrai. C'est pas... D'après l'histoire que j'ai eue, elle a juste... Enfin, elle a eu un enfant trop tôt. J'ai pas fait... Voilà, moi, j'avais 23 ans. Bon, mes parents n'étaient pas super OK. Elle n'était pas... Donc, j'ai pas eu... J'ai eu deux félicitations de ma sœur et de mon frère. Sinon, ça a été des... Pas de félicitations. Voilà. Mais du coup, voilà. J'ai eu énormément peur de faire des erreurs et de...
Quoi comme erreur ?
Bah, je sais pas, parce qu'en vrai, elle a pas fait d'erreur, mais tu vois, vu que, puis il y avait ce truc toujours de mon père qui me disait, oui, si tu fais pas tes recherches, tu pourras pas être heureuse, tu pourras pas être une bonne mère, tu pourras pas avoir une bonne vie. Et du coup, il y avait ce truc du fait qu'il fallait, j'avais l'impression que pour, du coup, pour.
C'était une injonction.
J'en avais parlé à une psy plus tard qui m'a dit qu'en fait, si mon père me disait ça, c'était plus pour lui que c'était important, parce que moi, depuis petit, je me disais, je vais faire mes recherches à 18 ans, et à 18 ans, je suis arrivée, je me suis dit non. J'ai pas envie et j'en ai pas besoin, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'avais peur de pas arriver et je sais pas, d'abandonner Isaïa ou autre comme ça. J'avais peur, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, en fait, je vais pas y arriver. Moi, je me suis toujours dit, à partir du moment où j'aurai des enfants, je ferai quand même tout pour que ça se passe bien avec mes parents, pour que déjà ils aient une bonne relation avec leurs grands-parents. Un jour, Isaïa me demandera pourquoi moi je suis marron et pourquoi mes grands-parents sont bleus, enfin ses grands-parents sont blancs. Il me le demandera, donc il faudra que je lui explique, mais il faudra que j'arrive à lui dire que ça reste quand même ses grands-parents. On n'a pas, il y a pas de lien du sang, mais c'est ses grands-parents et c'est mes parents. Il faudra que j'arrive à lui expliquer ça.
Tu lui en as jamais dit?
À Isaïa?
Ouais.
Non, mais je trouve qu'il comprend ça.
Bah, il est plus si petit, il comprend.
Je dirais qu'on sera capable de comprendre que Spider-Man, c'est pas lui. On pense juste que Spider-Man et lui, ce sont les mêmes personnes. Donc on sera capable de comprendre que ça, c'est pas comme ça. Je lui expliquerai. Dit que, par exemple, Fred El-Faïs est tonton et noir. Et quand on lui dit à tonton, il dit tonton blanc ou tonton noir?
Mais ceci dit, ça c'est marrant ce que tu dis, parce que ma soeur est dans notre famille de blancs, ses enfants, mariés un blanc, ses enfants sont blancs. Mais à Chambrousse, là, bah, c'était l'occasion justement de voir tous mes neveux et de leur expliquer pourquoi je ne parlais plus à mes parents. En fait. Alors, ça va à 21, 18, 13 ans, c'est ça leur âge, ils ont à peu près à quoi comprendre. Et d'un coup, les enfants se retournent vers ma soeur et disent mais toi, et puis voilà, elle part, mais voilà, comme le héros qui a été adopté, ma soeur. Et en fait, les enfants butent là-dessus, bah oui, mais vous savez bien. Et en fait, c'était oui, mais non, en fait. Et c'était tellement une évidence pour ma sœur et pour moi que l'une est comme l'autre, et surtout ma sœur est aussi adoptée, que c'est comme si elle n'avait jamais pensé vraiment à le dire aux enfants. Après, moi, j'ai pas du tout envie de retourner, j'ai pas du tout envie de trouver mes parents biologiques. C'était un trop plein de parents, là, j'en ai plus du tout. Putain, je suis bien, j'ai vraiment bien. Donc voilà, mais parfois, de ce truc que je voudrais savoir, c'est, voilà, que potentiellement, ouais, j'ai des frères et sœurs qui vont tous bien, des oncles et tantes, mais sans être proches, enfin, sans, voilà, j'aimerais juste qu'on me raconte.
Bonjour mon Afrique, je n'ai pas eu le temps de te connaître, mais je reviens très vite et ça je peux te le promettre. Une dame est venue me chercher, elle vient de France, elle est belle, jeune, blanche et tout va bien se passer je pense. Elle fait preuve d'amour dès son premier regard, si ça se passe mal, dans quelques années je repars. Dans tous les cas, ils sauront que je viens d'ici, car c'est inscrit sur ma peau, j'ai l'Afrique comme édifice. début de l'histoire de ma vie. À seulement 8 mois, je quitte Bamako, ma ville. Je sais pas ce qui m'attend, je sais pas où je vais, mais c'est Dieu qui l'a choisi, donc forcément ça promet. On verra comment je grandis, on verra comment je m'adapte. J'étais loin d'imaginer qu'à peine debout on m'adopte. Je te dis au revoir, bien plus vite que prévu. Et sans le savoir, la séparation est très dure. Je rencontre ma famille, j'apprends à les connaître. Pour certains, je suis pas la bienvenue, mais j'ai le sourire aux lèvres. Mes parents m'aiment et c'est tout ce qu'ils m'importent. Je sais que si j'ai un coup de mou, ils viendront me prêter main forte. Je suis plutôt heureuse donc je souris souvent. Je résume le début de ma vie, je te dis ce dont je me souviens. Et même si au fond je sais qu'on choisit pas nos vies, comment oublier d'où je viens? Sans vous, je ne serais rien. Les années passent et j'ai vraiment pas à me plaindre, non. Je suis bien chez moi car je reçois de l'amour à plein temps. Mais malgré tout, personne sait ce que je ressens quand je me dis qu'à 20 ans, je sais toujours pas à qui je ressemble. Mais c'est pas grave car je me sens bien dans ma peau. J'ai trouvé des gens comme moi et on rame dans le même bateau. Je découvre la musique sur le tard, direct lui en osmose. Mon histoire ressemble étrangement à l'enfance de Oxmo. Je fais mon chemin, tout doucement mais sûrement. J'ai des principes, mes amis peuvent compter sur moi. Mes parents m'ont inculqué tolérance, amour et respect. Aujourd'hui, si je dois partir, y'a que pour eux que je resterai. Et puis bien souvent, j'espère être assez reconnaissante. Si le bonheur se définissait, je prendrais ma vie comme exemple. Hein, j'estime avoir de la chance. Qu'est-ce que je serais devenue si j'avais pas connu la France? Mais Dieu l'a voulu ainsi, donc ainsi va la vie. J'applique les choses comme je les ai apprises et selon mes envies. Ils disent que j'ai une bonne étoile, moi je préfère dire que je suis bénie. Tout comme le début de mon histoire, je reste fidèle au pays. Et même si au fond, si au fond je sais qu'on choisit pas nos vies, comment oublier d'où je viens? Vous êtes l'encre de mon livre, on y a écrit les plus belles lignes. Sans vous, je ne serais rien dans mon cœur orphelin.
J'ai jamais pu parler du coup avec mes frères et sœurs de comment eux ont vécu mon arrivée dans leur famille, ma place. C'est une conversation qui n'a jamais eu lieu. Et vraiment, ma vie dans ma famille, donc là, la couleur disparaissait et tout ça, et ma place, tout ça, ça j'ai l'impression d'être dans une famille, enfin, normale, d'être vraiment... Et à l'extérieur, je sais pas, moi, je traînais pas avec mes frères et sœurs. J'étais pas forcément dans les mêmes établissements scolaires qu'eux. Donc, en fait, je disais pas que j'étais adoptée, ou à très peu de gens, une fois que je me sentais vraiment suffisamment proche d'eux, en fait. J'évitais la question, je mentais pas, mais je racontais pas ça, quoi. Mais après, par contre, j'ai vécu des scènes assez traumatisantes, parce que du coup, comme j'ai pas parlé avec mes frères et sœurs de la manière dont ils vivaient le truc, on n'habitait pas loin du collège, et je sais qu'une fois, mon frère était rentré du collège, et il y avait une meuf qui avait demandé mais qui j'étais, en fait, si j'étais pas la femme de ménage. Donc, autant te dire que ça, je l'ai très mal vécu, et j'en ai jamais reparlé à mes frères et sœurs. Et où c'est arrivé d'autres fois, où voilà, c'était chez moi, il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, qui se demandaient ce que je foutais là, quoi, et je voyais bien que mes frères, ils disaient pas.
Et que moi, quand je me vois sur les photos avec ma sœur, c'est toujours étrange. Par exemple, quand les raffos, voilà, je suis avec mes neveux, notamment quand c'était petit, je me rendais bien compte que j'étais leur nounou, en fait, dans les yeux des gens. En plus, ils sont tous, c'est des petits blondinets aux yeux bleus. Mais en revanche, ma sœur, c'est ma sœur, je me suis jamais posé la question de ressemblance, de pas ressemblance. Et elle, c'est pareil, c'est un truc qui coule, et quand bien même gamine, on te dit oui, mais c'est pas ta sœur parce qu'elle te ressemble pas, qui faisait hyper mal. C'était pareil pour les parents, mais voilà.
Donc sur le désir d'enfant, non, je crois qu'il n'y a pas trop de lien avec le fait que j'ai été adoptée ou pas. J'envisage en tout cas certainement bien plus facilement que d'autres personnes d'adopter moi-même des enfants. Le truc, c'est que dans ma vie personnelle, j'en suis tellement loin, mais tellement loin d'avoir des enfants, J'aimerais déjà trouver un copain, ce serait bien. La question de la maternité chez moi se pose au sens large. C'est-à-dire que, quand, tu vois, j'imagine qu'au moment où on abordera avec mon conjoint l'idée d'avoir des enfants, d'en avoir des enfants, ça comprend aussi bien le fait d'être enceinte que d'en adopter. Je fais pas trop de différence entre les deux. J'aurai des enfants biologiques, certainement, mais avoir des enfants, un enfant ou des enfants adoptés aussi, c'est possible, quoi.
Moi, j'en suis nulle part. D'accord. À 40 ans, j'en suis nulle part, parce que, pareil, j'ai du mal à me trouver. Moi, j'ai eu une pression aussi de ma mère sur le scolaire, et j'avais aucune place pour exprimer, moi, mes propres envies, désirs et plaisirs. Et en fait, moi, ça m'a complètement bloquée. Donc, du coup, j'ai fêté mes 25 ans avec le RMI. Et je vis de petits boulots, voilà. Donc, j'ai cette tendance, comme chacun l'a exprimé, de vouloir exceller sur plein de choses. Je lis beaucoup. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Je suis pas diplômée. Je suis allée aux Beaux-Arts. Au final, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Pour moi, ça a été compliqué de... Et ça l'est encore un peu, de trouver ma place socialement. Et je crois qu'en fait, juste si je vis, c'est déjà bien. Et puis, le projet que j'ai, quand tu parles de projet familial ou projet professionnel ou social, moi, ça serait de pouvoir concrétiser, parce que bon, j'ai quelques petits soucis psychologiques qui fait que mes projets s'arrêtent en cours de route. Mais mon projet, ce serait vraiment de retourner la main à mon pays d'origine. Là, je suis en reconversion, par exemple. Ce serait d'être diplômée en tant que prothésiste dentaire et monter un projet avec ou autour de personnes dans mon pays d'origine et redonner un petit peu de... Je sais pas comment on appelle ça... un peu le retour à ce pays qui m'a donné naissance, la vie, et puis la possibilité d'être dans cette trajectoire de vie, comme une sorte de remerciement à ce pays et à ses parents aussi, qui m'ont donné aussi cette possibilité, parce qu'on parle des parents adoptifs qui donnent la possibilité, mais il y a aussi les parents biologiques qui donnent la possibilité.
Mon pays, c'est la communauté des adoptés, un documentaire écrit et réalisé par Ravaka Porcher et Leïla Porcher. À la technique, Leïla Porcher et Karine Tisser, avec la participation de Tanlan, Eraj, Johan, Pauline, Linda, Julie, Amélie et Juliette. Dans cet épisode, vous avez pu entendre « Cœur orphelin » de Siana. Intro et virgule, d'après une musique de Sarah May, elle est partie.
Who'll pay reparations on my soul? Many suggestions and documents written. Be a man. Can't depend on no one else. Oh yeah.
Longtemps. Quand je dis que j'ai été adoptée, c'est je suis une enfant adoptée. Or, je ne suis plus une enfant, effectivement.
Être adoptée, pour moi, ça signifiait être différente des autres, que ce soit ma famille ou de l'univers dans lequel j'évoluais. Et surtout, ça signifiait ne pas être entendue.
Bah, l'endroit où moi, je sais que je suis bien, mon pays, c'est la communauté des adoptés.
Mon pays, c'est la communauté des adoptés. Un documentaire en 4 épisodes réalisé par Leïla et Ravaka. Conversation, échange, analyse et témoignages de 8 personnes adoptées.
Pour au récit, j'ai l'impression que c'est un truc très qui nous fonde dans nos identités. Enfin, le truc d'une culture qui n'est pas la nôtre mais qu'on porte. On porte sur nos visages, quoi, précisément là en tant qu'adopté racisé, on porte ces récits collectifs sur nos visages et en fait on n'y peut rien, quoi. Enfin, je veux dire, pourtant on les a pas vécus, c'est une guerre.
Épisode 4, identité et communauté.
Je pense que, encore une fois, c'est très spécifique aux histoires des uns et des autres. En fait, l'identité de personne adoptée est une identité qui se construit. Moi, pendant très longtemps, c'est une identité que j'ai refusé de construire. Donc on peut appeler ça un rejet. En tout cas, c'est pas une identité dans laquelle je me reconnaissais. Elle existait puisque, en fait, je la niais. Donc je niais quand même quelque chose. Je ne lui donnais pas corps. Et depuis mes 22-23 ans, c'est une identité que je développe, mais dans laquelle je me reconnais plus. Ça correspond à une phase d'acceptation. En tout cas, c'est une identité que je peux porter publiquement, mais aussi parce qu'en fait, j'en ai plein d'autres des identités. Et donc, comme j'en ai plein d'autres, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'assumer cette identité-là en plus, parce qu'en fait, on peut difficilement me réduire à ça. Alors que quand on est beaucoup plus jeune, en réalité, il y a peu de choses qui nous instituent. Et donc, on peut très vite être amené à l'identité de l'enfant adopté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire que je suis adoptée. Il y a une connotation beaucoup plus positive dans les milieux dans lesquels j'évolue à l'université. C'est quasiment une qualité pour certaines personnes. Ça te rend intéressant. quand tu dis que t'es adoptée, on va s'enquérir de « Ah, mais quelle est ton histoire ? Ah, mais c'est passionnant !» Dans certains milieux, hein, tout, je précise bien, mais le fait d'être, d'avoir des origines multiples est quelque chose de vu comme, comme un élément de richesse. Et donc, bah, aujourd'hui, pas bête, comme j'évolue dans ces milieux-là, j'hésite plus. Enfin, voilà, c'est une identité qui n'est pas compliquée à porter. Et en même temps, comme j'en ai plein d'autres, voilà, on ne peut pas me réduire à ça.
Je me suis rendu compte qu'en plus, il y a une espèce de combat de loyauté. J'ai été éduquée, voilà, mes ancêtres sont gaulois. Et qu'en fait, la Corée, quand je la regarde, quand j'essaie d'apprendre le coréen, j'apprends la Corée, je suis blanche. Quand je regarde ça, j'ai toujours un regard de blanche, en fait. J'apprends le coréen comme une blanche. Je regarde la Corée avec ma culture blanche et je pourrais jamais, jamais me défaire de ce regard. J'aurais jamais un regard strictement coréen sur la Corée.
On est façonné par le regard de quelqu'un qui va nous... Mmh. Quand même, on est aussi façonné de ça, quoi. On est façonné par un imaginaire. Et une... Même s'il y a déni, il y a quand même un lien. C'est comme si on te collait une culture... tu vois, t'as quand même une veille, même si tu fais du déni, parce que je pense que moi j'ai été dans une, un truc plus de déni, parce qu'on a un peu tous des attitudes un peu différentes par rapport à l'adoption, et je suis du groupe déni, je m'adapte et je fais profil bas, et du coup, là-dedans, il y a quand même une veille. En ayant fait des études dans tous les arts et tous les trucs comme ça, enfin, tu vois qu'il y a quand même une vraie teinte, enfin, et moi qui me rejetais le truc en disant ouais, c'est japonisant, parce que il y avait des profs qui pouvaient associer ce que je faisais à la culture asiatique régulièrement, souvent je le prenais un peu comme un truc hyper grossier, et en fait avec du recul je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui est teinté dans ma production, et je crois assez, alors après ça n'engage que moi, mais c'est vrai que je crois assez en le fait que j'ai eu un œil particulier quand même sur la culture, et du coup c'est une culture aussi qu'on fantasmait, quoi.
Parce que moi, sur ce point-là, notamment sur mon travail artistique, c'est quelque chose qui m'a toujours fait halluciner, justement, cette couleur qu'on te met sur toi. Et notamment, au Beaux-Arts, c'est quelque chose que j'ai complètement évacué, mais n'empêche qu'il y a, voilà, deux, trois fois, c'est quelque chose, on va te le remettre, alors que tout ton discours n'est pas du tout là-dedans. Mmh. Visuellement, ça ne ressemble pas. Mmh. Et je sais très bien qu'en plus, quand mon nom, Linda Roux, hein, qui sonne quand même vachement français, quand je mets mon travail sans ma tête, ah bah, mais personne ne se pose cette question-là. Personne. En revanche, d'un coup, j'ai ma tête. Ah bah, d'un coup, il y a des personnes qui vont te dire « Ah, mais là, d'un coup, je sens là une influence asiatique. »
Notre corps dans l'espace, il n'est pas du tout comme ceux des Asiatiques. On n'a pas la même démarche.
Non, on ne se tient pas du tout pareil.
On ne se tient pas du tout pareil. Enfin, du coup, je pense que quand même si ce n'est pas formulé, on sent qu'il y a quelque chose qui est différent d'une communauté qu'on peut situer, quoi.
Je me sens clairement parisienne, quoi. S'il y a vraiment une identité qu'il fallait que je revendique, ce serait l'identité parisienne. Alors qu'on peut construire des fantasmes autour de l'identité maghrébine, mais en même temps, je veux dire, j'en ai tellement rien. Enfin, je veux dire, la communauté maghrébine, si encore on peut parler de communauté maghrébine, est tellement présente en France, et elle est tellement présente en France avec un vrai bagage culturel, que moi, à côté, enfin, mon bagage culturel, c'est celui d'une bourgeoise des beaux quartiers, en fait. En rien, je n'arrive à rentrer dans des identifications maghrébines. Les maghrébins eux-mêmes me le renvoient. Parce que d'une part, je parle pas arabe, parce que j'y connais rien à la religion, parce que, en fait, je m'habille même pas comme quelqu'un qui pourrait identifier. Je le vois bien. Parfois, ça peut me vexer. J'ai habité longtemps à Ménilmontant, et tous les commerçants sont maghrébins. Quand même, je trouve que je ressemble à une maghrébine. Je vois bien, ils disent « Salam alaikum » à tous les maghrébins qui rentrent, mais moi, jamais il y en a un qui me l'a dit. Non, mais sérieusement, je vois bien que ils me reconnaissent pas. Et ils me posent d'ailleurs même pas vraiment la question. Moi, j'ai pas le droit à un salam. Voilà, je peux le fantasmer, le rapport à l'identité maghrébine, mais en fait, c'est un peu le truc bâtard de la chose, c'est qu'on est entre deux choses.
Avec Amélie, on se disait ça, il n'y a que nous deux comme noirs pour aller marcher dans la montagne. Voilà, mais c'est quoi on se dit, mais bon, on fait ça déjà. Et Amélie me disait, mais c'est pas un truc de noir de marcher dans la montagne. Je dis, bah ouais, mais pourtant on est en train de le faire. Elle fait, arrête avec tes comportements de blanc ou quoi. Ouais, marcher dans la montagne, c'est un truc de blanc. Non, c'est pas un truc de blanc. Marcher dans la montagne, c'est un truc normal. Mmh. Du coup, je marche dans la montagne. Et enfin, je lui dis, je fais pas des trucs de blanc. Mais j'ai été élevée par des blancs. Donc forcément, bah, mon comportement, tu vois, ça, sachant qu'en plus, il n'y a pas de comportement de blanc. Des fois, c'est quand, par exemple, quand je lui parle de certains trucs, il me dit oui, tu parles comme une blanche. Non, je parle normalement. Pour lui, c'est dès que s'il utilise un mot qui est un tout petit peu compliqué, c'est parler comme un blanc.
Je peux te poser une question personnelle? Tu viens d'où? Tu viens d'où?
Ah, mais c'est quoi tes origines?
Ah, mais moi j'aime les Asiatiques, hein, j'aime les Chinoises. Tu viens d'où? Ah, mais là d'un coup je sens là une influence asiatique. Tu viens d'où?
Ah, mais c'est quoi tes origines? Tu viens d'où? Je suis sûr que t'as un accent asiatique. Tu viens d'où? Ah, mais c'est quoi tes origines?
À Casino, il y a une dame qui était derrière moi, j'étais avec Isabelle et Tia. Et bon, comme toujours, on les trouvait trop mignons. Quand je me suis retournée, elle m'a dit il faut leur parler la langue de votre pays. J'ai dit mais mon pays, c'est la France. Elle a dit bah non.
Ok, tant pis.
Tant pis pour vous. Je vais leur parler français, c'est pas grave. Elle m'a dit bah non, comme si bah non, 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 c'est pas possible, c'est pas ça. Si.
C'est ce qui m'est arrivé au bar il y a mercredi. Devant la queue des toilettes, et puis tu vois, t'es aux toilettes, il y avait une sacrée queue, t'étais, tout le monde est au taquet comme ça pour aller pisser, on rigolait tous dans la queue là-bas, et il y a une nana qui était juste avant moi, et on rigolait justement de ça, qui donc on me regarde et me demande, mais tu viens d'où? Et là, elle dit, et en fait, bah, d'ici de Saint-Etienne, puis j'avais pas envie de lui répondre, en fait, et qui finit par me dire, non, mais je sens bien que t'as un accent asiatique, j'ai fait la langue asiatique. Et là, tu fais, ben non, le seul accent que j'ai, c'est un accent stéphanois. Et puis là, je sais, parce que des fois, ça sent un peu. Et en fait, elle n'a pas voulu en démordre. Et c'est quand la personne est sortie des toilettes, moi, je me suis engouffrée de temps, mais elle était persuadée de ça. Je sors, je pensais qu'elle allait me lâcher la grappe. Et non, elle revient en plus pour me dire, ah, mais je suis désolée, je ne pensais pas t'énerver. Et qui finit par partir avec un petit sourire en coin comme ça, vraiment tendu d'elle. Mais je suis sûre que t'as un accent asiatique. Et elle s'est même pas posé la question une seconde, cette nana, de se dire, mais asiatique, un accent européen, ça veut dire quelque chose, mais ça veut rien dire. L'Asie, c'est vaste. C'est pas juste le Japon, la Chine et la Corée, quoi. C'est l'Inde, c'est le Pakistan. Enfin, c'est ça tape large. Et même un accent chinois, ou plutôt du mandarin, n'est pas un accent japonais.
Un accent visuel, c'est pas un accent
sans. Ben voilà. C'est tout à fait ça.
Je reviens juste sur le truc de l'accent, parce que je me rends pas compte au collège, quand je suis arrivée à Bourg-en-Bresse, j'avais une copine Valentine et elle avait dit nique ta mère avec un accent africain. Et quand on était rentrés en classe, la prof a été sûre que c'était moi. Je t'ai entendu dire ça avec ton accent. Et je disais, mais c'est pas possible. Déjà, j'ai pas d'accent. Je sais pas quel accent vous voyez, mais elle était persuadée que c'était moi. Elle était sûre. Ça m'avait blessée, en fait. Et plusieurs fois, je lui disais, j'ai pas d'accent, c'est pas possible. Et Valentine, ça la faisait rire à côté, en fait. Je disais, mais c'est Valentine.
Mais maintenant,
elle a fait un accent africain. Elle était sûre que c'était moi.
Je suis en train de faire la démarche de reprendre mon prénom de naissance parce que je me suis rendu compte que quand on a un prénom français et un nom français, qu'on se présente à un endroit et qu'on me dit, ah bon, c'est vous? Parce que les gens s'attendent pas à ce qu'on ait ce physique-là. Ben, c'est vexant. Alors maintenant, je me dis, ben, quitte à être discriminée, autant que je sois dès le début. Comme ça, quand j'arrive, ils s'attendent à ce que j'ai le physique qui va avec mon prénom. Parce que pour moi, c'est important d'être... Ça fait partie de moi. Je ne veux pas rejeter cette part-là. Je sais que la France a joué sur ma construction mentale, mais ma construction physique, ben, je suis vietnamienne et c'est comme ça.
Linda et Julie, c'est vos prénoms d'origine ou du coup on vous les a changés après?
Non.
Ouais, c'est changé. Ouais.
Non, moi je m'appelle mon nom coréen, c'est Lee Kung-un. En fait, c'est toujours le nom de famille qui passe en premier. Donc en fait, mon prénom c'est Kung-un, que ma mère a toujours très très mal prononcé. Et en fait, s'ils m'ont appelé Linda, c'était pour que le Lee reste de mon nom de famille qui pensait plus ou moins avec mon prénom. Et d'ailleurs, dans ma famille, il n'y a que dans ma famille, et aujourd'hui il n'y a que ma sœur qui m'appelle Lee.
Eh ben nous, ils l'ont mis en deuxième prénom. Enfin, ils nous ont renommé. Et puis, ouais, on savait, ouais. Et d'ailleurs, c'est un secret.
très longtemps, on était « Ah ouais, tu dis pas » avec ma sœur. Donc, on, comme un secret, quoi, comme un truc hyper précieux qu'il fallait pas abîmer. Et du coup, c'est Che, Choi, Che, ils disent Che, Yunjo, ça s'écrit Yunjo et c'est Anju quand ils prononcent.
Mais ta sœur, son prénom
C'est un prénom...
Purement auvergnat.
Non, en fait, c'est Stéphanie. Et mais moi, par contre, j'ai du mal, tu vois. Et pourtant...
Mais c'est elle qui s'est renommée, tu vois. Ah, d'accord, renommée, d'accord.
Il y a un truc avec Sein, c'est un truc avec le voyage de Chihiro.
Ah oui, j'ai été.
Ah, mais oui, c'est
un non-nom. Ouais, tu sais, c'est un nom que t'oublies.
T'es arrivée à quel âge, toi, déjà?
Je suis arrivée à 3 ans et demi.
Ah oui, tu parlais.
Ouais. Je suis arrivée de Madagascar et je parlais malgache, mais il n'y avait personne pour me parler malgache, donc forcément, j'ai tout perdu.
Oui, mais ça, comme là-dessus, c'est aussi le non-exception que tout enfant adopté dans un autre pays, de toute façon, il perd sa langue.
Moi, c'est pareil, hein, j'ai été adoptée à 3 ans. On avait un accent auvergnat de ouf. Hein.
Les plus petits s'animent, les lumières scintillent. Bienvenue dans ma vie.
On nous maquille, talons d'Achille, quand trop fragile. T'es pas Malik, t'es pas Charif, pas versatile. Demande au vrai, j'ai combien de piges dans ce putain de bise. Il me sourit pas, j'ai pas de respect pour les hypocrites. Quand je touche plus la tise, mes rêves se concrétisent. Ah ouais, en vis la cible, comme s'il y avait un milli dans la valise. Je cook dans la cuisine, mon nouveau hit. J'expose tous les blancs suprémacistes. Fait 15 ans que les expos sont plus en ville. Contingent armé comme à Brazzaville. Il y a 2 ans, j'ai donné mon 4%. Meilleure décision à vie. Hey, compare pas un poney à 1%. Tu vas perdre ton pari. Hey, tu joues au bon gars, mais t'es délinquant. Tes excuses étaient pas très convaincantes. Beaucoup régressent, nous on se réinvente. Depuis mon succès, ils rêvent d'avant. Rêve d'avant.
La même moi, Washi. La même moi, Washi. Les plus petits s'animent. Les plus petits s'animent. Les lumières s'attirent. Les lumières s'attirent. Bienvenue dans ma vie.
Je suis la fille de pas juste la sœur de arrive en ville. Génie ou demi-dieu, à croire que ton vœu c'est l'évangile. Sapé en boubou sur tapis rouge, une fois lancé je fais jamais de demi-tour. Fuego avec lunettes infrarouges, après le Québec, l'Afrique on fait Singapour. Camus, boulot, dodo, pada, cheque, sans un loco. Ghetto, bendo, couteau, Black Lives Matter jusqu'au tombeau. Money talk, yeah, je suis polyglotte. Nos valeurs sont aux antipodes. Fin des carrières comme Antigone.
La même moi voici, les plus petits s'animent, les plus petits s'animent, les lumières scintillent, les lumières scintillent, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma vie.
En fait, on vient d'un pays qui était une dictature. Pas la plus moche du monde, mais une vraie dictature, avérée. Et c'est un truc que j'avais complètement mis sous le tapis. C'est un rapport, du coup, à la Corée qui est...
Mais c'était mystérieux, non, quand même. Enfin, moi, petite, en tout cas, c'était un truc... Enfin, personne ne connaissait.
Ah, mais moi, ça n'existait pas.
C'était aucun imaginaire.
Moi, ça n'existait pas du tout. C'est pareil, c'était rien. C'était... Mes parents m'en parlaient pas.
Puis je sais, j'arrive jamais à savoir. Mais on avait un livre, mais tard, un peu tard, qui traînait, mais c'était surtout sur des paysages, un peu, voilà, de photos, Mais oui, il y avait peu d'éléments.
Parce que moi, j'avais un livre aussi que j'ai jamais eu, parce qu'en plus j'ai une petite part, voilà. Mais après, moi, mes parents, c'était l'Asie au sens large. Mon père m'a offert 2 kimonos, c'est japonais. J'avais des petites poupées, elles étaient chinoises.
Nous, ils étaient un peu chantés qu'ils étaient un peu pudiques avec ça. Même les trucs un peu asiatiques chantaient que c'était... Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui me disais que c'était un peu les trahir ou... Il y avait un truc un peu...
Si, ouais, pour moi, c'était beaucoup ça aussi.
De t'intéresser à certaines choses.
Ouais, c'était d'être déloyal.
J'ai l'impression que, en fait, depuis que je suis enfant, j'ai toujours mis en place des mécanismes de compensation. C'est-à-dire d'essayer d'exceller un peu à l'école, dans le sport, enfin voilà, un peu à tous les niveaux, de faire des recherches, d'être éduqué, d'être cultivé et tout ça. Et j'ai l'impression que tout ça, je l'ai fait aussi pour compenser le fait d'être une pédale et le fait d'être, d'avoir la peau foncée, le fait d'être racisé. Et en fait, là, je m'en rendais compte, en tout cas, sur la question du racisme et le fait de du temps de cerveau que ça me prend chaque jour de me poser la question de « Ah, est-ce que ça, c'était raciste ?»« Ah, est-ce que cette personne me parle comme ça parce qu'elle est raciste ?»« Ah, est-ce qu'on me considère de cette manière-là parce que cette personne est raciste ?» Je pense que j'ai un peu envie de prendre des vacances, en fait, de cette charge raciale qui est sur moi. Mais c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partir pendant un an et de retourner dans mon pays d'origine pour, en fait, aussi avoir une forme de vacances et de relâchement sur ces questions-là. Et me libérer du temps cerveau et du temps d'énergie pour investiguer sur des choses plus utiles et aussi me retrouver dans un espace, une terre, une histoire qui, dans laquelle je me sentirais d'office plus légitime, même si je n'ai pas la culture, et c'est ça qui est assez fou. C'est quand je suis retourné au Sri Lanka, j'ai vraiment senti une forme de légitimité qui m'a assez surprise. Une légitimité à être quelque part, alors que je n'avais ni les codes, ni la culture, ni la langue. Et quelque chose que je ne ressens pas ici, que je me suis dit, ah mais d'accord, ça se trouve, c'est ça que les personnes blanches vivent en France tout le temps.
Moi, ça me pose question, le truc de... Parce que quand j'étais petite, je passais mon temps à me demander qu'est-ce que voyaient les gens de moi, de comment ils me percevaient, est-ce que j'étais intégrée, est-ce qu'ils avaient oublié que j'étais... c'était très important, ça, pour moi. Si une amie était une vraie amie, il fallait que je vérifie si elle avait oublié que j'étais asiatique, si elle m'aimait au point d'avoir pu penser à mes origines et tout. Et en même temps, je me dis, tiens, l'effort que j'ai dû faire toute ma vie pour me mettre dans le regard des autres, pour me décentrer, du coup, ne plus être dans moi et vivre mon truc, mais de me dire qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça symbolisait, si je fais ça, comment ça va être perçu, etc. Je me dis qu'en fait, finalement, de me décentrer, ça réitère toutes ces violences qui nous traversent, en fait, qui sont la violence de pression sociale, de choses... De violences symboliques aussi, quoi.
Il y a une question importante, en tout cas, par rapport à... Parce que la santé mentale... Enfin, on parle de la santé mentale. Moi, ce que j'ai dû travailler, c'est ma place, en fait. Mon corps, dans quel espace il doit être, en fait. Ici, en Occident, quelle place il a, en fait. Et j'ai dû travailler... J'ai le droit d'être là, que ça te plaise ou non, que mon apparence physique te dérange ou pas. J'ai le droit en fait d'être ici en France, en fait. j'ai ma place en fait, j'ai le droit d'être dans cet environnement là en fait.
Sur ces questions d'identité ou de racisme, et elle se résout, cette question d'identité par rapport au racisme qu'on peut vivre en groupe, par le groupe, et elle se résolve par la communauté, elle se résolve par l'histoire que certains groupes portent ensemble. De fait, les adoptés racisés n'ont pas les moyens, ne peuvent pas résoudre ensemble, par la communauté, ces problèmes de racisme. Donc, en fait, c'est ça, c'est bouché, quoi. Il y a quelque chose qui est impossible. D'ailleurs, c'est aussi qu'on est dans une culture occidentale centrée sur l'individu, en fait. On va se résoudre, on nous pousse à nous résoudre. Tu parlais des thérapies tout à l'heure. On nous propose de nous résoudre individuellement, par nous-mêmes, par un recentrage, par l'individu. Et on porte notre responsabilité de nos psychologies par nous-mêmes. Mais il y a des cultures qui se résolvent par le groupe, par le cœur, par l'âme, par la communauté, par la famille, par le social, parce que les gens sont liés, en fait. Et ils ne se conçoivent pas seuls, mais ils se conçoivent par le groupe. Et en fait, nous, précisément, si on pouvait être résolu, si on pouvait avoir un peu d'apaisement à un endroit, ce serait par la communauté, en tout cas sous cet aspect racisé. Ce serait par une communauté qu'on n'a pas, qu'on nous a amputée, en fait.
Moi, je suis actuellement travailleuse sociale en protection de l'enfance. Et je pense que ce n'est pas un hasard. J'aime beaucoup mon métier. Je pense que je vais continuer un certain temps. Après, dans un idéal rêvé, j'aimerais peut-être reprendre des études en psychologie pour pouvoir justement apporter aux personnes adoptées et aux personnes racisées.
Racine Coréenne, quand je dis, ça m'a sauvé un bout de ma peau, mais vraiment, vraiment, tous ces témoignages. Et ce qui fait, j'ai réfléchi, poussé où je me situe, combien de temps de déni. Ça m'a pris des années, et puis je sens bien que ce n'est pas fini du tout. Mais ça m'a permis d'avoir une espèce de soupape qui fait que ça m'a fait du bien.
Non, je voulais juste rajouter un petit truc que je trouve important, c'est que
ma condition de femme noire adoptée, même si parfois c'est pas forcément évident, tiens quand même à dire que j'aime en fait éprouver cette douleur, si ça peut faire un peu torturer, mais je pense qu'il y a beaucoup de douleur. Mais ma singularité dans la manière dont je traverse l'existence, je la trouve intéressante. Et en fait, finalement, j'en vis pas forcément une personne qui n'aurait pas cette possibilité, grâce à, ou à cause de cette adoption, de déconstruire de la façon dont on le fait, dont je le fais. Je me dis, c'est une expérience de vie quand même. C'est un chemin de vie qui est extrêmement riche. Et même si, voilà, ça peut être très pénible, en tout cas, je suis fière de mon identité, quoi.
Bah, moi, j'ai cette question. Savoir que tu viens d'une des familles ou d'un des endroits les plus pauvres du monde, que cet endroit-là, en fait, c'est un produit de la colonisation, que c'est lié à des enjeux de racisme systémique, de suprématie blanche et de patriarcat, et que ça a conditionné l'ensemble de ton existence. Moi, c'est quelque chose que j'oublie jamais, avec lequel je vis tous les jours. Moi, j'ai l'impression que quelque chose qui a toujours guidé ma vie, c'était une perspective révolutionnaire. C'est-à-dire de me dire que je pouvais participer au changement de cette société que je trouvais profondément injuste. Et je pense que le terreau de ça, c'est l'adoption.
Mon pays, c'est la communauté des adoptés, un documentaire écrit et réalisé par Ravaka Porcher et Leïla Porcher. À la technique, Leïla Porcher et Karine Tisser, avec la participation de Tanlan, Erage, Johan, Pauline, Linda, Julie, Amélie et Juliette. Dans cet épisode, vous avez pu entendre « Bienvenue dans ma vie » de Saramé. Intro et virgule, d'après une musique de Saramé, elle est partie. Création musicale de Tom Porcher. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce projet et dont nous n'avons pas pu enregistrer les voix.
Vous venez donc d'écouter l'épisode 3 et l'épisode 4 de « Mon pays, c'est la communauté des adoptés ». Un podcast réalisé par Ravaka et Laëla Porcher que vous pouvez retrouver dans son intégralité et l'écouter à votre rythme sur le blog Arte Radio du même nom. Mon pays, c'est la communauté des adoptés. Alors on va finir Libre Débat en s'écoutant la playlist de Résistance aux frontières qu'a compilée ce mois-ci l'équipe de Chronique Amère. Je vous souhaite une bonne écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine. Restez sur Radio Galère 88.4. À 18h, ça sera l'heure de 1h en Palestine. Alarm phone, hello.
Hola. This is what you
want. Alarm phone. Salam alaikum.
Allô, bonjour.
Alarm phone,
c'est Alarm phone.
How are you, my friend?
Estás,
how many are you on?
Can you hear me?
Est-ce que vous m'entendez?
Okay, can you,
Benny, do you
can you give me your GPS position?
Chronique à mer.
Chronique à
mer. À mer.
Chronique à mer.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone. Freedom, I don't
need them. Where's your freedom? Combien de personnes êtes-vous sur le bateau?
Can you hear me?
What kind of boat are you on?
How many are you on the boat?
Keep calm, keep as calm as you can.
Okay, I call you back.
ما هو لون القارب؟
Je vous rappelle.
Try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2023, 3129 personnes sont mortes ou disparues en traversant.
260 personnes par mois.
782 personnes par semaine.
Près de 9 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Amère. Une chronique mensuelle où l'on parle de ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe. Et toujours depuis les réseaux Alarm Phone. Pour ce premier épisode de 2025, nous avons eu envie de vous proposer un nouvel épisode musical. Comme nous l'avions dit dans un précédent épisode, la musique est un moyen de transmettre des messages de lutte et de rage, de donner de l'espoir que nous trouvons puissant et qui nous parle. Dans Chronique Amère, nous utilisons souvent des extraits de morceaux, avec parfois la frustration de ne pas les écouter en entier. Les épisodes musicaux nous permettent de vous faire découvrir ou redécouvrir toute la puissance de ces chansons. Alors pour commencer l'année, nous vous proposons d'écouter différents morceaux qui parlent de l'exil, des politiques racistes des frontières, mais aussi des morceaux qui parlent du désir de liberté, de lutte et de rage, et qui ont pu être pris dans des manifestations de révolte ces dernières années. Une manière pour nous aussi d'apporter tout notre soutien à toutes celles et ceux qui luttent contre le racisme et le colonialisme, et pour la libre circulation de toutes, partout dans le monde. Bonne écoute. Le premier morceau, c'est la chanson « Gibraltar » de l'album du même nom d'Abdelmalik. Dans une interview, quand on lui demande pourquoi il a choisi d'appeler son album « Gibraltar », il dit « Ce qui m'intéressait aussi, c'était de dire que le Nord regarde le Sud avec une certaine condescendance, et que le Sud perçoit le Nord comme un Eldorado, en oubliant que nous sommes tous des êtres humains qui rêvent, pour certains de l'épanouissement, d'avoir une famille, de vivre une vie de façon tout à fait décente. Souvent, au Nord, on oublie ça, et au Sud, ils pensent qu'ici, c'est l'endroit où tout est possible, ce qui n'est pas nécessairement vrai non plus. Le Nord oublie la responsabilité qu'il a. Des familles entières se déciment, des gens sont prêts à tout pour venir ici. Je voulais parler de tout ça, et de cette notion de lien qui peut être aussi un point de rupture, si loin et si proche à la fois.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, que la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves. Même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit, ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
La prochaine chanson s'appelle Baraye, qui veut dire « pour » en persan. Cette chanson a été écrite en 2022 par Shervin Hajipour, au début des manifestations suite à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme iranienne décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs, qui l'accusait de ne pas porter son hijab. Cette chanson est devenue un hymne à la liberté et a été reprise de nombreuses fois. C'est la version de la chanteuse Donia que nous avons choisi de diffuser. Pour danser dans la rue, pour changer les cerveaux qui ont pourri, pour le regret d'une vie ordinaire, pour les larmes qui ne cessent de couler, pour se sentir en paix, pour femme, vie, liberté. Pour la liberté.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامو، برای تغییر مغزا که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این مهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی. برای آزادی. برای آزادی.
Maintenant, on va écouter la chanson Liberté de Soul King, une chanson qui a été reprise dans beaucoup de manifestations, en commençant par l'Algérie dès 2019, mais qui a aussi été chantée en Tunisie ou au Liban. On a déjà utilisé des bouts de cette chanson dans des épisodes précédents et on est très contente de pouvoir l'écouter aujourd'hui en entier.
Emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir pour un nouveau
La prochaine chanson s'appelle Milonga de Analejo, de Daniel Viglietti, un chanteur uruguayen qu'il a enregistré pour la première fois en 1967. Elle parle de l'exil et de la distance, des séparations produites par le racisme et les frontières. Elle parle de la volonté de faire, à force de solidarité et d'entraide, un monde sans barrières, débarrassé des exploiteurs.
Que lejos está mi tierra, y sin embargo que cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore. Que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.
J'ai découvert la prochaine chanson dans l'émission de Micro Féroce, une playlist contre le fascisme, sortie le 1er octobre 2024. Micro Féroce, c'est une émission féministe et musicale proposée par des meufs et adressée à toutes les oreilles. Pour présenter cette chanson, elles ont accepté qu'on utilise leur propre présentation.
C'est le morceau sorti en 2023, Le bruit et l'odeur, de la rappeuse Tina. Je la cite. « Mes textes abordent des thématiques parfois politiques comme l'antifascisme, le féminisme, la lutte des classes. Pour moi, le rap est politique dans son essence, dans son histoire, et j'ai envie de faire perdurer cet engagement. C'est un pouvoir que l'on a quand on vient d'en bas pour nous lier, nous rassembler, nous exprimer. »
Ok. Je pisse sur vos valeurs de France républicaine. Ni le vice ni l'odeur de cette engeance n'est la mienne. En revanche, je suis née ici et c'est marrant, je l'ai pas choisi. Pourtant certains me disent que cela justifie d'être fier d'une race caucasienne. Qu'aucun ne vienne me causer de leur suprématie. Car de Dakar jusqu'à Cayenne, le même sang coule dans nos veines. La même haine pour nos maîtres nous mènera à les détrôner. On nous parle des problèmes de cité, on s'intéresse jamais aux causes enracinées. Sans citer notre passé, on ne fait que susciter la cécité des habitués de tous les plateaux télé. Hein. Quand on les parque dans les camps, les quartiers, quand les épargnes des plus grands se mettent à craquer, la violence naît des tours, se manifester après. On nous parle d'égalité, gâtillée dans ton pays, des droits de l'homme après avoir navigué sur la Méditerranée. Tu seras condamné à livrer pour Uber Eats sur un scooter. À des petits blancs qu'oseront te parler du bruit et de l'odeur.
Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le panier devient fou.
Nos bords de nos masters, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le paternaster te met à terre. Dommage, trop tard pour le phaser. Hommage à tout ce rêvant d'un ailleurs. Nos bords de nos masters, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le paternaster te met à terre. Dommage, trop tard pour
pour le phaser. Hommage à toutes celles rêvant d'un ailleurs.
Le bruit et puis l'odeur des porcs qui nous gouvernent. C'est quand je vais en hauteur que la puanteur m'atteint. Et elle vient pas de chez Mustapha, mon cher voisin. Mais elle embaume mon quotidien là, du soir au matin. Un peu la suffisance des gens qui sont nés quelque part. Quelque part, y'a que des barges quand ils débarquent armés de leur pack de survie. Et qu'on leur dit qu'y'a rien pour eux ici. La solution est pourtant simple. Passons à la géométrie. Théorème de Pythagore, A et B plus A et C égale BC. Dans mon CD, facho plus con égale DC. Tous obsédés par la CB, pas question de leur céder, ça fait ACAB. Je vous refais l'alphabet, il ne suffit pas d'un varié pour éloigner les immigrés. Pour des bras bon marché, ça bronche chez moi dans les troquets. Bah ouais, ta terre d'accueil tant convoitée, désormais ça s'appellera Calais. Le sens-tu, l'entends-tu? Le bruit et puis l'odeur d'un pays colonialiste. Le fruit de la sueur d'une gouvernance fasciste. Le bruit, la puanteur du syncapitalisme. À quand le coup de carcher des vrais voyous en costard? Quand courent mes frères qui accostent illégalement? Où vont-ils se réfugier quand dans la nuit il se fait tard? Peut-être dans nos camps aux airs de vieux régime allemand. Yeah. Que voulez-vous que je vous dise? Comme Kerry, j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Je veux que ça devienne notre devise. Ayons l'âme insoumise. Welcome all refugees. Donne nos masters, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le pattern, Aster te met à terre. Dommage, trop tard pour le phaser. Hommage à tous ceux rêvant d'un ailleurs. No border, no master, crois-moi, on va pas se taire. Cette terre sur le pattern, Aster te met à terre. Dommage, trop tard pour le phaser. Hommage à toutes celles rêvant d'un ailleurs. Hommage, hommage à toutes celles rêvant d'un ailleurs.
بشر ومالك منا خود ماهر وارحل عنا وشرعي تتسقط عنا ويلا ارحل يا بشار
يلا ارحل يا بشار
ويلا ارحل يا بشار ويا كذاب وتقرب انت وهالخطاب.
Cette chanson taillée dans Nebda est une des nombreuses chansons chantées dans les manifestations en Syrie depuis 2011. Manifestations qui étaient réprimées dans le sang par le régime syrien étaient en fait très festive côté manifestants. C'était une manière pour les manifestants de rester soudés face à cette répression. Si vous regardez par exemple une des vidéos où cette chanson est chantée dans les manifestations, vous verrez les gens mettre leurs mains sur les épaules des personnes à côté et danser ensemble et chanter cette chanson. Et vraiment ça donne une autre dimension à la chanson. Maintenant, pour ce que ça raconte, c'est toute la chanson est un message adressé à Bachar al-Assad. Il y a un côté comique et un côté lourd qui dit « on a atteint un point non-retour ». Parce que ça commence par dire, en s'adressant à Bachar, « si on revient, ça veut dire si on arrête la révolution, est-ce que tu écouterais nos demandes ?» Et là, c'est le comique qui vient, il dit « bon d'accord, dégage alors ». C'est ça notre demande. Enfin, c'est une sorte de clarté de nos demandes. Et ensuite, pour montrer qu'on a atteint un point non-retour, la chanson formule des demandes en disant « Ok, on veut le sang des martyrs. Pourquoi est-ce que tu nous tues ? On veut Hamza. » Hamza, c'est un enfant qui a été torturé, enfin tué par la torture, par le régime. Et son corps était... une image pour faire peur aux Syriens. On veut chaque larme qui a coulé chaque vendredi, parce que les manifestations avaient lieu les vendredis, et donc voilà, les larmes on voit aux gens qui ont perdu leurs proches. Et à un moment ça dit, on veut le signe de victoire au-dessus du palais. Et ce morceau-là a été beaucoup repris récemment depuis la chute du régime, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le palais et qui ont fait le signe de victoire. Et donc, ce morceau-là a été beaucoup repris récemment.
تسمعنا توعدنا تسمعنا ماشي الله ارحال هاي مطالبنا ماشي الله ارحال هاي مطالبنا
نادى من الشهداء يرجعناه غدا نادى من الشهداء يرجعناه غدا والقصة مع صدار
نزلت بكل جمعة كل أصبع بشمعة تضوي وجهتنا كل أصبع بشمعة تضوي وجهتنا
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que les musiques de cet épisode vous auront transmis force et rage pour l'année 2025. On veut terminer cet épisode, comme toujours, avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour les proches des personnes décédées sur les côtes de la Manche, ce 29 décembre, mises en danger par des politiques toujours plus répressives à cette frontière. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux victimes des attaques génocidaires de l'État colonial d'Israël, en Palestine, au Liban, en Syrie, au Yémen. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui luttent en Martinique, en Guadeloupe, en Kanaky, à Mayotte, et qui subissent de la répression de la part de l'État colonial français. Des pensées de solidarité pour le peuple syrien et leur liberté, suite à la chute de la dictature de Bachar al-Assad. Des pensées de solidarité pour le peuple soudanais, qui subit la guerre et la famine depuis plus d'un an et demi. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui continuent de lutter pour la liberté de circulation et la fin des frontières. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à tous les artistes qui ont écrit et composé ces chansons pleines de rage, d'amour et de lutte. Merci aux camarades qui ont suggéré des chansons, qui ont partagé ce que leur évoquent ces musiques. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM, Radio Dio, Radio Galère et Canal Sud.
Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez consulter le site de Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.